Bonsoir. Évaluation du DCRP 2 et du programme d'action du gouvernement. Le ministre du Plan a annoncé que des progrès remarquables ont été réalisés, notamment dans le domaine de l'éducation et celui de la lutte contre la mortalité infantile. Cependant, Célestin Vounabandi reconnaît que les progrès restent mitigés, entre autres dans la lutte contre la pauvreté. Quelle analyse faire de cette évaluation du gouvernement? C'est le thème de dialogue entre Congolais de ce mercredi 16 juillet 2014. Et pour en parler, je reçois dans cette émission pour le débat Marcel Kanda. Il est conseiller chargé de la macroéconomie au ministère du Plan du gouvernement central. Monsieur Kanda, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Victor Jouzi, coordonnateur de l'ONG Nouvelle Alternative pour le Développement. Il est aussi analyste économique. Monsieur Jouzi, bonsoir.
Bonsoir.
Et bienvenue Marie Bakoumania, directeur de la rédaction en charge de l'économie et de l'investigation au groupe de presse Mediaset. Bonsoir, bienvenue.
Bonsoir, cher conseil.
Merci de nous suivre par journée RDC sous la fréquence FM. Et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radiocapi.net. Bienvenue à tous dans cette émission.
Radio. Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
La RDC a réalisé une croissance moyenne de 8,5% en 2013 au lieu de 7,3% en 2012, soit une augmentation de 1,2%. C'est ce qu'a affirmé le ministre du Plan jeudi dernier à Kinshasa. C'était lors de la clôture de la deuxième revue annuelle du document des stratégies des croissances et des réductions de la pauvreté de deuxième génération du CRP2 et du programme d'action du gouvernement. Pour Célestin Vounabandi, bien que la RDC ne pourra pas atteindre tous les objectifs du millénaire pour le développement en 2015, il importe néanmoins de souligner les progrès remarquables accomplis, notamment dans le domaine de l'éducation et celui de la lutte contre la mortalité infantile. Michel Kifindangoy nous en dit plus.
Concernant le domaine de l'éducation, le ministre du Plan estime que la gratuité dans le primaire, la promotion de la scolarisation des filles et la construction des écoles par le gouvernement ont favorisé l'augmentation croissante du taux net de la scolarisation qui s'est accéléré de 61% en 2007 à 90,5% en 2012. L'amélioration de la qualité de l'enseignement et des conditions de vie de l'enseignant ainsi que la réduction du taux de perdition demeurent néanmoins des défis à relever, affirme Célestin Vounabandi. Le ministre du Plan reconnaît cependant que dans le domaine de la lutte contre la pauvreté, les progrès restent mitigés.
Fin 2012, le niveau de pauvreté est situé à 63%. Il y a donc eu quelques progrès, mais qui restent encore assez limités pour atteindre la cible de 40% en 2015. Et c'est une pauvreté qui touche de plus en plus les jeunes et les femmes et qui favorise le chômage et l'exclusion. Quels sont les défis qu'il faut relever ? Et à la répartition équitable du revenu national.
Célestin Vounabandi ajoute par ailleurs qu'aucune évolution notable n'a été enregistrée dans le secteur de l'eau et assainissement. En effet, entre 1995 et 2010, moins de 50% de la population a eu accès à l'eau potable. En 2012, cette proportion a atteint à peine 50%, précise-t-il.
La porte-parole de l'équipe Pays des Nations Unies en RDC, Geneviève Delaunoy, a relevé mercredi 9 juillet dernier que 63% de la population congolaise vit sous le seuil de la pauvreté. Elle a annoncé ce chiffre au moment où intervenait l'évaluation de la deuxième revue annuelle du document des stratégies des croissances et des réductions de la pauvreté de deuxième génération et du programme d'action du gouvernement. Intervenant au cours de la conférence des presse des Nations Unies à Kinshasa, Geneviève Delaunoy a aussi indiqué, sans donner des chiffres, que le taux de mortalité maternelle et infantile reste très élevé en RDC. On l'écoute.
La revue annuelle du DSCRP2 et du programme d'action du gouvernement est un exercice mandataire, c'est-à-dire qu'il est obligatoire. En 2014, il analysera les dynamiques socio-économiques dans 9 secteurs. Au nom du groupe de coordination des partenaires, M. Moustapha Soumaré, représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies, a souligné les résultats encourageants enregistrés en 2013 en RDC dans les secteurs de l'éducation, de la santé et de la parité genre. Toutefois, les défis restent immenses car les fruits de la croissance ne sont pas encore perçus par les populations congolaises, dont 63% vivent encore sous le seuil de pauvreté. Les taux de mortalité maternelle et infantile restent très élevés et le climat des affaires décourage les investisseurs du secteur privé.
Marcel Kanda, je rappelle que vous êtes conseiller chargé de la macroéconomie au ministère du Plan du gouvernement central. On va essayer d'utiliser des termes pas trop techniques pour aider les auditeurs à pouvoir comprendre de quoi nous parlons dans cette émission. Alors, pour commencer, dites-nous d'abord qu'est-ce qu'on entend par revue annuelle du DCRP.
Très bien. Merci madame pour la question. Merci également de nous avoir invités sur ce plateau. Je crois que nous pouvons définir de manière très simple la revue comme étant une évaluation périodique d'un programme de développement. Et dans le cas de la revue du DCRP, il s'agit d'une évaluation annuelle par rapport aux actions et mesures préconisées dans ces différents documents de stratégie de croissance et de réduction de la pauvreté, ainsi que le programme d'action du gouvernement. Et cette évaluation s'est faite non seulement en rapport aux actions prévues dans ces documents de développement, mais également par rapport aux objectifs préalablement fixés. Et la revue s'est faite chaque année pour voir quels sont les progrès qui ont été réalisés, quelles sont les contraintes, quels sont les blocages qu'on a rencontrés dans la mise en œuvre, pour qu'on se rassure qu'on est sur le chemin ou le trajectoire des objectifs réellement fixés.
Alors, il y a combien d'objectifs qui ont été fixés?
Bon, il y a plusieurs objectifs qui ont été fixés, mais ces objectifs peuvent être regroupés à travers le DCRP, on peut les regrouper dans 4 piliers essentiellement. Le premier pilier porte sur le renforcement de la gouvernance et la paix. Le deuxième, sur la diversification de l'économie, l'accélération de la croissance et la promotion de l'emploi. Le troisième, c'est l'amélioration de l'accès aux services sociaux de base et le renforcement du capital humain. Et le quatrième, c'est la protection de l'environnement et la lutte contre le changement climatique. Comme vous le constatez, tous ces piliers sont, si vous voulez, des objectifs globaux qui découlent d'un objectif un grand objectif principal qui est l'amélioration sensible des conditions de vie des populations à travers la consolidation de la paix.
Et ces objectifs doivent être atteints par le gouvernement d'ici 2015.
Très bien.
Alors,
mais il faudrait préciser que le DCRP a été renforcé dans son cadre opérationnel qu'on appelle le programme d'action prioritaire à travers ce que nous appelons le programme d'action prioritaire renforcé. Ça a été renforcé par quoi ? Par les idées forces de la révolution de la modernité du chef de l'État et le programme d'action du gouvernement. Donc, c'est ce cadre opérationnel qui, il y a un horizon allant de 2012 à 2016 qui nous permet de mettre en œuvre les actions du gouvernement.
Alors, dans son annonce, le gouvernement ou le ministre du Plan a annoncé des progrès dans le domaine de l'éducation et celle de la mortalité infantile. Quels sont les indices qui prouvent qu'il y a eu amélioration dans ces domaines-là?
Je crois que pour nous, analystes, c'est mieux de parler sur base de chiffres. Il y a des enquêtes qui ont été menées.
Et sur l'étendue du pays?
Effectivement, sur l'étendue du pays. Et l'enquête la plus récente, c'est l'enquête 1, 2, 3, dont les résultats préliminaires sont déjà disponibles. Et cette enquête nous révèle, concernant par exemple le secteur de l'éducation, vous l'avez entendu dans le mot de son Excellence, Monsieur le ministre du Plan, dans la présentation qu'il a eu à faire à la revue du DCRP 2 et du programme d'action du gouvernement. Entre 2001 et 2000, on a une augmentation du taux net de scolarisation qui s'est accélérée entre 2007, s'est chiffré à 61%, et maintenant en 2012, on a atteint un niveau de 90,5%. Donc ça, c'est une grande avancée qui ne peut être qu'applaudie. Donc, comparativement aux objectifs qui étaient préalablement fixés dans le DCRP, nous voyons qu'il y a une avancée notable. C'est de même que dans le secteur de la santé. Bien sûr, c'est pas tout le secteur globalement. Et ici, il a fait mention de la situation qui prévaut en ce qui concerne la mortalité infantile. Et les résultats de l'enquête 1-2-3-2012, bien sûr, le rapport n'est pas encore finalisé. Il y a un rapport préliminaire qui existe. Ce rapport révèle qu'on est passé entre 2001 et 2012, de 213 pour 1000 à 104 pour 1000. Donc vous voyez qu'il y a une amélioration parce que le taux de mortalité a fortement baissé.
Alors, le gouvernement parle de taux de mortalité qui a fortement baissé, mais on a suivi tout à l'heure la porte-parole de l'équipe Pays des Nations Unies, partenaire du gouvernement congolais, qui estime que le taux de mortalité reste toujours élevé en RDC.
Bien sûr, il est élevé parce que si on le compare à d'autres pays, nous allons nous rendre compte qu'il est encore élevé, mais il y a des efforts. Il y a des efforts qui sont d'être entrepris par le gouvernement et ces efforts expliquent la situation de la diminution de ce taux de mortalité. Et c'est ces efforts que nous sommes en train de louer ici et nous pensons que l'exercice de la revue nous a permis de faire le point, comme je l'ai dit. C'est une évaluation annuelle qui nous permet de dire, voilà, nous nous sommes fixés un objectif quantitatif, par exemple en termes de mortalité. Si ma souvenance est bonne, par rapport au taux de mortalité, on tenait à atteindre, je crois, 60 pour 1000 naissances vivantes. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, nous sommes à 104. Donc, s'il y a des efforts, on essaie d'accentuer les efforts, on peut probablement atteindre cette cible.
Merci Marcel Kandavito-Nzouzi. Vous êtes coordonnateur de l'ONG Nouvelle Alternative pour le Développement. Vous êtes également analyste économique. Comment vous analysez l'évaluation faite par le gouvernement sur son action et sur le DCRP2 concernant l'éducation et la santé, surtout sur, concernant la mortalité infantile?
Merci beaucoup pour la parole. Je pense que le gouvernement a fait un bon travail, un très bon travail, parce que ça permet quand même de prendre la température. Lorsque le gouvernement reconnaît qu'au niveau de la lutte contre la pauvreté, les résultats sont vraiment mitigés, donc c'est vraiment une très très bonne observation. Alors, mais je vois très mal comment est-ce que les résultats doivent être mitigés au niveau de la lutte contre la corruption et qu'on atteigne les résultats qu'on a pu atteindre par rapport à la santé et à l'éducation. Parce que pour envoyer ses enfants à l'école, écoute, il faut qu'on mette un peu à côté cette histoire de, comment on appelle ça, gratuité de l'enseignement, parce que il n'est pas gratuit. Hein. Il n'est pas gratuit, même à l'école primaire. Je sais, dans le Bas-Congo, c'est pas gratuit et partout, c'est pas gratuit. Donc, c'est pas gratuit. Alors, je vois pas comment, quand on a les gens restent dans la pauvreté, et comment est-ce qu'ils peuvent assumer leurs responsabilités par rapport à l'éducation. Je vois très mal comment ils peuvent assumer leurs responsabilités par rapport à la santé. Vous savez, quand vous allez dans des milieux tels que le village, là où je suis maintenant, et vous passez dans des centres de santé, je vous assure, ça vous rend malade. Ça vous rend malade. Tout ce qu'il y a comme paludisme, tout ce qu'il y a comme maladie hydrique et pulmonaire, ça continue. On peut faire toutes ces statistiques qu'on est en train de faire. C'est parce qu'on est à la veille de 2015. Et, donc on arrête un peu de, excusez-moi, je vais utiliser un terme un peu dur, de fabriquer des statistiques, mais il faut qu'on soit vraiment cohérent. La pauvreté est là et tant qu'on n'a pas, on n'engage pas des actions très très concrète par rapport à la lutte contre la pauvreté, je vous assure que tout ce qu'on est en train de faire là, c'est plus des discours, quoi.
Victor Nzouzi, le ministre, je vais reprendre les termes du ministre, il a estimé que la gratuité dans le primaire, la promotion de la scolarisation des filles, ainsi que la construction d'écoles par le gouvernement ont favorisé l'augmentation croissante du taux net de scolarisation. Mais vous nous dites que l'enseignement primaire n'est pas gratuit.
Mais l'enseignement primaire n'est pas gratuit. Il n'est pas gratuit. Mais qui vous dit qu'il est gratuit? C'est pas parce que le ministre a dit qu'il est gratuit que vous devez croire. Il n'est pas gratuit. Vous demandez tout le monde de passer le micro dans la rue. Hein? Il n'est pas gratuit. Ici où je suis au Bas-Congo, il n'est pas gratuit. Comme dans d'autres provinces. Pourquoi on doit dire ce qui n'existe pas? C'est pas gratuit. Alors, par rapport à la construction des écoles, vous savez, bon, moi je ne sais pas, je n'ai pas trop vu ces écoles qu'on a construites, parce qu'il faudrait qu'on nous fasse une cartographie, qu'on le voie. Il y a certaines écoles qui ont été construites, mais dans le milieu où je suis, j'ai demandé la liste des écoles construites, par exemple en Bandaou. On ne m'a jamais fourni cette liste-là. Je vais encore insister pour qu'on me fournisse cette liste. Et hier, et avant-hier, j'ai assisté à un débat. En fait, il y a le chef de secteur de Kwilungongo, qui est en tournée dans des villages. Je suis allé, parce que je suis un acteur de développement, je suis allé voir, entendre, écouter, peut-être contribuer. le mot de chef de secteur, il insistait pour que le parent paye le frais scolaire. Il dit, vous devez payer parce que les enseignants se plaignent. Les directeurs des écoles se plaignent. Il y a tellement de dettes. Et c'est où? C'est dans les écoles primaires. Je vous dis, c'est dans les écoles primaires. C'est clair. En fait, j'ai voulu prendre cet exemple, pas pour accuser, mais pour vous dire que le problème se pose. Et on ne peut pas réduire cette mortalité infantile. Heureusement que l'objectif était d'atteindre 40 sur 1000 et on est encore à 140, donc on est encore loin. Bon, il reste 2 mois peut-être qu'on va faire des miracles. Mais comment voulez-vous, dans un pays où le problème d'eau se pose, comment voulez-vous lutter contre la mortalité infantile? Comment voulez-vous dans un pays où le problème d'habitat rural? Est-ce que vous voyez quand vous allez dans le village quel type de maison il y a? Et dans ces maisons-là, il faut installer le moustiquaire. Hein, tout ce qu'il y a comme la moustiquaire, vous installez. S'il y a 2 pièces, vous installez 2 moustiquaires. Sur quel espace? Et ces moustiquaires, on les retrouve chez le pêcheur et ils utilisent ça comme outil de pêche. Quand vous allez dans certains milieux, on utilise ça comme outil leur permettant de barricader leur pépinière contre les chèvres. Il faut le dire. Et alors?
Et donc, vous n'êtes pas d'accord avec l'évaluation faite par le gouvernement. Mais vous êtes quand même d'accord parce que le gouvernement reconnaît qu'il y a encore des choses, il y a encore beaucoup d'efforts à faire.
Écoute, mais ces efforts, nous voulons que ça vienne. Hein. Les objectifs du millénaire, c'était quand? En 2000, hein? Quand on prenait ces engagements, d'ailleurs fait 2000, fait 89, donc 2000, quand on prenait ces engagements. Et aujourd'hui, on voudrait se précipiter pour présenter. Non, mais écoute, c'est pas facile. Après, j'ai toujours insisté, hein. J'ai toujours insisté. Vous savez, les objectifs du millénaire et tous les programmes que nous utilisons dans notre pays, c'est le programme à PPTE, hein, pays pauvre et très endetté. Ce programme-là, ce n'est pas notre programme, ce n'est pas votre programme. C'est un programme imposé par la Banque mondiale et le Fonds monétaire international par tous les pays pauvres. C'est une recolonisation. Et quand on part sur ce genre de bases-là, écoute, tout est faussé. Hein.
Merci,
est
Victor. Faussé.
Parce qu'on n'aura jamais de revenus, s'il vous plaît. Je termine par là. On n'aura jamais de revenus parce que tout ce que nous allons faire, il y a toujours cette pression sur nos ressources qui devaient nous donner des moyens. Il y a cette pression-là des grandes puissances et malheureusement, c'est le programme suivi par le gouvernement.
Merci, Vito Nzouzi. Bienvenue, Marie Bakoumania. Quelle est votre lecture par rapport à cette évaluation du gouvernement?
Oui, c'est un exercice difficile. Moi, je voudrais quand même remonter déjà sur le document des DCRP. C'est quoi? C'est un programme de gouvernement? C'est un plan d'action du gouvernement? C'est un programme avec le FMI? Déjà, la nature de ce document qui a été élaboré déjà à l'époque de 1 plus 4, cette nature posait problème. Au point que, en faire l'évaluation, c'est une difficulté réelle. Mais on ne va pas revenir à ce débat, on l'a déjà dépassé. Moi, je suis d'avis qu'un programme du gouvernement ferait bien l'affaire pour la réduction de la pauvreté, hein, pour atteindre les objectifs du millénaire pour le développement, les OMD, hein, comme on dit. Mais qu'à cela ne tienne, la tâche est difficile. La tâche est difficile parce que je l'apprenais d'ailleurs hier de la bouche de M. Michel Sommouet, que je salue là où il est, hein, que les revenus annuels par habitant pour les Congolais, c'est 110 dollars. Ce sont des statistiques, des chiffres de la Banque centrale. Je me suis précipité à vérifier, mais j'étais effaré de constater qu'il disait vrai. Lorsqu'on a 110 dollars des revenus annuels par habitant, dites-vous, il est difficile de faire face à toutes ces obligations. Mais mon cher ami Victor a tout à fait raison. Il a tout à fait raison. Aujourd'hui, l'enseignement, l'accès à l'enseignement, ben, l'enseignement n'est pas gratuit du tout. Lorsqu'on élimine le Minerval qui se chiffrerait à 100 francs ou à 500 francs et que l'on prétend que l'enseignement est gratuit, on est loin de la réalité. Nous, parents, continuons. Nous-mêmes, nous sommes parents. Nous continuons à payer le frais de scolarité de nos enfants au primaire. On a des cousins au village, on envoie de l'argent, on nous demande de l'argent pour les Minerval, pour les frais d'études. Ce sont des réalités qui sont les nôtres. La meilleure manière pour moi pour qu'on fasse l'évaluation, c'est de dire que nous avons une croissance réelle, hein, tractée par le secteur minier et des télécoms, c'est une croissance qui est une réalité, ce n'est pas une fiction.
Hein. Mais une croissance qui n'est pas encore perçue par la population.
Justement, la meilleure manière aujourd'hui, c'est d'en assurer la redistribution. Moi, je pense que lorsqu'on aurait atteint l'objectif d'une meilleure redistribution, et le ministre l'a dit, une meilleure la répartition équitable du revenu national, je pense que c'est même là qu'il a terminé son speech tout à l'heure, le ministre Vinorband, il a dit, lorsqu'on aura atteint cette répartition équitable du revenu national, c'est en ce moment-là qu'on peut prétendre faire une évaluation rationnelle des programmes tels que, des documents tels que les DCRP. Et cette évaluation rationnelle ne peut, cette redistribution, voulais-je dire, ne peut réussir que si l'on prend en considération, si l'on donne la vraie valeur des secteurs tels que l'agriculture. Ce qui a été fait hier au parc Bukanga-Lozo, ce sont des actions à entreprendre. Il y a également un autre secteur qui est propice pour une meilleure redistribution de cette croissance, c'est le secteur de l'environnement. Avec tout ce qu'on peut tirer de ces secteurs, on peut avoir la possibilité, tel que les objectifs étaient d'ailleurs réévalués, d'avoir 1 million d'emplois durables créés. Aujourd'hui, on ne peut pas prétendre que sur toute l'étendue de la République, il y aurait eu déjà 1 million d'emplois durables qui auraient été créés par quelque effort que ce soit. Et aussi, lorsqu'on vicie considérablement les climats des affaires, les investisseurs ne viendront pas. Il n'y a pas plus tard que quelques jours, j'apprenais par exemple que le PDG d'Orange était entendu pendant des longues heures. Quel message nous donnons à l'extérieur aux investisseurs? Quel message nous leur donnons pour un conflit de travail? Ce sont des choses tellement flagrantes, des choses tellement simples et faciles à faire que nous n'arrivons pas à les réussir. Et difficilement, un programme pourtant, un document plein d'ambition, qui aura du mal à être évalué, aura du mal à être suffisant, à donner suffisamment d'impact sur le vécu quotidien des Congolais.
Alors, est-ce que le ministre parle, par exemple, du taux de mortalité infantile qui a baissé? Qu'est-ce que vous en pensez?
C'est une réalité, le taux a baissé, les chiffres, les statistiques parlent. Et lorsqu'on est dans des analyses économiques et autres faits sociaux, il faut faire parler les statistiques. Lorsque les statistiques parlent, on doit évaluer en termes de pourcentage les avancées. Lorsqu'on constate qu'il y a eu diminution, il faut le reconnaître. Là où on avait 1000 morts, si on a ne fût-ce que 2 morts de moins, dites-vous, c'est une avancée. Mais là, les statistiques démontrent que les progressions sont plutôt encourageantes pour la République dans ce sens-là. Mais Victor tout à l'heure l'a dit aussi, là où il n'y a pas d'eau potable, comment voulez-vous que les enfants qui naissent ne puissent pas mourir de maladies hydriques? C'est aussi simple que ça. C'est ça la vraie évaluation. La vraie évaluation, c'est de constater dans notre vécu quotidien, pas ici à Kinshasa. Quand je dis notre vécu quotidien, c'est par rapport à nos frères et sœurs qui sont dans les villages. Lorsqu'ils n'ont pas d'eau potable, lorsqu'ils n'ont pas les conditions minimales d'une vie décente, dites-vous, il est difficile. Et lorsqu'ils n'ont pas, en plus, des revenus, ils sont à 110 dollars. 110 dollars, vous les divisez, madame, vous avez la réalité des Congolais qui vivent. Ils ne sont même pas en dessous du seuil de pauvreté.
Alors,
ils sont très loin.
On va prendre pour vous, bienvenue Marie Bakoumania, cette réaction qui nous vient de Bukavu au sud Kivu.
J'adore Igilima à partir de Bukavu en province du sud Kivu. Peut-on vraiment qualifier d'objectif le bilan du DCRPD et du programme d'action du gouvernement dont l'évaluation est faite par le même gouvernement? Pouvons-nous dire que seule la publication des résultats des examens d'État en moins de 3 semaines dès leur passation permet-elle au ministre d'affirmer qu'il y a eu des progrès remarquables dans ce domaine alors que d'aucuns estiment que par rapport à jadis, actuellement, le niveau d'enseignement est au rabais. Au lieu de s'auto-évaluer, le gouvernement devrait se faire évaluer par d'autres institutions, dont le Parlement.
réaction. Je vais vous donner la parole, Monsieur Kanda.
Il a bien sûr raison, l'auto-évaluation. Mais non, je pense que c'est par devoir de rédévabilité que le gouvernement, de temps en temps, donne des chiffres. Ça permet aussi à ceux qui suivent, des observateurs qui suivent et des observateurs intéressés comme nous, d'avoir des repères. Ça, c'est des pas. On ne peut pas blâmer le gouvernement pour avoir mis à notre disposition les données statistiques. Le devoir de transparence, il faut plutôt l'encourager. Moi, je pense que à l'auditeur qui a posé la question, de mettre à l'actif du gouvernement cette transparence. Moi, j'encourage. Mais je pense, à mon humble avis, pour que nous puissions avancer, madame, nous devons explorer les secteurs agricoles, les secteurs de l'environnement, les secteurs pourvoyeurs d'emploi. C'est seulement à ces conditions-là. Sans revenus, dites-vous, on peut élaborer autant de documents, il n'y aura pas de développement possible.
Merci, bienvenue. Monsieur Kanda, on va, avant de réagir aux analyses de bienvenue et de Christophe Zouzi, on va prendre pour vous, de Victor et de bienvenue, j'ai dit, on va prendre pour vous cette réaction qui nous vient une fois de plus de Bukavu au Sud Kivu.
Emmanuel Niroué de Bukavu au Sud Kivu. Certains bilans publiés en RDC commencent à étonner et il est difficile d'y croire. Car certains indicateurs comme la gratuité de l'enseignement primaire sont faux et remettent la fiabilité de tous ces résultats en cause. Nous pensons que la deuxième revue annuelle du document de stratégie de croissance et de réduction de la pauvreté des deuxième génération et du programme d'action du gouvernement a lamentablement raté sa cible. D'ailleurs, la promotion de la scolarisation des filles, la construction des écoles par le gouvernement et la gratuité de l'enseignement primaire encore utopique que le ministre cherche à mettre en avant-plan ne sont que des petits indicateurs de la croissance et de la réduction de la pauvreté. Comment pouvons-nous lutter contre la pauvreté en n'affrontant pas les questions de fond telles que les salaires réguliers des agents, la suppression de la prime dans les écoles publiques, la création des emplois et que sais-je encore?
Réaction, Marcel Kanda.
Très bien. Toutes les préoccupations soulevées par les interlocuteurs sont pertinentes. Je pense que il y a lieu de repréciser les choses, comprendre d'abord le sens de l'exercice et tirer des leçons de cet exercice. Nous reprécisons ceci. La revue, c'est un exercice mandataire entre le gouvernement et ses partenaires sociaux, les partenaires techniques et financiers, les secteurs privés. Donc, toutes les parties prenantes du développement assistent à cette évaluation. Et vous savez comment la société civile parle. La société civile était présente, les partenaires techniques et financiers étaient présents et on a fait une évaluation sans complaisance. Et la leçon que nous pouvons tirer des bonnes pratiques, c'est d'abord que c'est des choses qui n'ont jamais existé dans ce pays. Nous voyons un membre du gouvernement, chaque ministre du secteur concerné au secteur ciblé qui ont été ciblés par la revue, se lever et dire « voilà, en termes d'objectifs fixé dans mon secteur, voilà ce qui a été fixé, voilà ce qui est fait. Voilà les difficultés que nous avons rencontrées dans la mise en œuvre. Donc, la leçon qu'il faudra tirer, c'est de dire quels sont les objectifs que nous sommes fixés en termes quantitatifs. Qu'est-ce que nous avons fait au jour d'aujourd'hui? Pourquoi nous n'arrivons pas à atteindre ces objectifs? Et ça nous permet à faire un diagnostic sans complaisance. Nous faisons le constat et nous disons, voilà, si nous voulons atteindre nos cibles, quels sont les efforts que nous devons faire pour atteindre ces cibles? Et ça, c'est une grande leçon. C'est des pratiques qui n'avaient jamais été faites auparavant dans notre pays. Et aujourd'hui, nous voyons ces pratiques qui se font en présence de la société civile, des partenaires au développement. Je peux vous dire, par exemple...
Mais si... parlons de la gratuité dont parle le ministre. Vous avez suivi...
Je veux revenir sur la question de la gratuité. Mais quand nous suivons, par exemple, les messages forts de la part de partenaires au développement, vous savez, les partenaires ne sont pas complaisants. Les partenaires ont apprécié les progrès qui ont été accomplis et des résultats atteints. Particulièrement dans les secteurs qui ont été précités, c'est-à-dire le secteur de l'éducation et de la santé, mais ils ont dit également qu'il y a des gros efforts à faire. Personne ne nie qu'il y a des efforts à faire, mais au moins, il faut dire, voilà, nous avons élaboré un programme de développement ensemble, où en sommes-nous dans la mise en œuvre? Quels sont les goulots d'étranglement? Que devons-nous faire pour lever ces goulots d'étranglement? S'il y a des réformes qui sont mises en œuvre, quels sont les problèmes qui empêchent une bonne mise en œuvre de ces réformes? Je voudrais, avant de revenir sur la question de la gratuité, dire que le processus de la revue part des provinces. Comme vous le savez, toutes les provinces disposent des plans stratégiques de développement qu'on appelle plan quinquennal de croissance de l'emploi, assorti d'un programme d'action prioritaire qui est le cadre opérationnel. Donc nous avons fait des travaux d'évaluation au niveau des provinces et ces informations nous ont permis de nourrir ce que nous appelons les revues sectorielles au niveau central. Et l'activité qui a été menée la semaine dernière a consisté tout simplement à restituer les résultats des travaux qui ont été faits au niveau des provinces et au niveau sectoriel. Et je vous rassure que ces travaux ont été faits en présence de toutes les parties prenantes. Donc la société civile a donné son point de vue. Donc la leçon que moi je retiens de cette revue, c'est d'abord cette culture de redevabilité. Le gouvernement peut s'arrêter à un certain moment, dire voilà, qu'est-ce que je fais? Je me suis fixé des objectifs. Est-ce que je les ai atteints?
Alors,
est-ce que
je ne les ai pas atteints? Déjà dit, qu'est-ce que je dois faire sur la gratuité de l'enseignement? Le ministre affirme que la gratuité de l'enseignement, la promotion de la scolarisation de la fille, la construction des écoles par le gouvernement favorise l'augmentation croissante du taux net de scolarisation.
Très bien.
Alors que lorsqu'on suit les auditeurs et même les autres intervenants, l'enseignement n'est pas gratuit.
Non, il faut d'abord retenir que la RDC, c'est un grand pays. Et si on commence à construire quelque part, quelqu'un qui est dans un autre coin ne dira pas forcément qu'on a construit. Donc le pays est tellement immense, le problème de scolarisation, c'est un problème réel, il faut le reconnaître. Mais il faut également reconnaître les actions concrètes qui ont été menées en termes de construction. Pour ce qui concerne la gratuité, il y a des mesures qui ont été prises par le gouvernement, par exemple en ce qui concerne les minervales, hein, le minerval que les parents donnaient. Dans certaines provinces, c'est déjà applicable.
Lesquelles?
Je n'ai pas assez de précision, mais je crois que à l'intérieur du pays, c'est déjà applicable. À Kinshasa, ce n'est pas encore applicable, notamment dans
Lubumbashi
et Kinshasa. Mais à l'intérieur du pays, c'est applicable. Ce qui veut dire que cette charge qui provenait du financement des ménages est soustraite de la charge des ménages. Donc c'est déjà quelque chose que rien. Donc il faut reconnaître quand même les efforts qui sont faits, même si on n'a pas encore atteint le maximum de ce qu'on doit faire, mais au moins il y a quelque chose qui est fait. Donc c'est ça la grande leçon qu'il faut retenir.
Merci Marcel Kanda. Victor Nzouzi, il y a une réaction pour vous qui nous vient de Moba au Katanga.
C'est Kipo Kajaps de Moba au Katanga. Le ministre du plan a raison. Il est honnête et sincère. Par contre, il ne doit pas se consoler. Je pense qu'avec un peu plus de volonté, on ferait plus que ce qui a été fait. On a pris trop de temps pour en arriver là. En 1997-1998, en peu de temps, toute la communauté avait vécu ce qui avait été fait dans le cadre du social.
Victor Nzouzi.
Ben, je pense qu'il a tout dit, il n'a pas contredit. Si en 97-98 on a fait ce qu'on a pu faire, et pourquoi maintenant, une dizaine d'années, on n'arrive pas à faire quelque chose? Vous savez, je prends des exemples concrets. Ce qui pouvait nous permettre, par exemple, de remonter, de rehausser le niveau dans le milieu paysan, hein, où il y a plus de 70% de la population. Le gouvernement s'est endetté où il a acheté des tracteurs. Et vous savez comment ils ont été gérés? Un gaspillage impossible. Le gouvernement a lancé deux campagnes agricoles. Un gaspillage impossible. Vous vous imaginez? Donc, la maladie qu'il y a, c'est la gouvernance, la gestion. On doit apprendre à être sérieux. Et on n'est pas sérieux dans la gestion. Donc, il n'y a pas à passer par 50 chemins. Hein? Donc voilà la situation. Donc quand il dit qu'on a géré en 97-98, c'est clair, un laps du temps. Et pourquoi on n'a pas pu maintenir cette rigueur? Et d'ailleurs, quand je parle de cette rigueur, le coulage des recettes l'a démontré. Hein, ce n'est pas nous qui avions fait cette évaluation, c'est le gouvernement lui-même. Voilà de l'argent du trésor public qui disparaît comme ça, où on n'arrive pas à aller chercher l'argent là où il se trouve. Où, là où ils se trouvent, les gens qui vont chercher, ils vont bâtir à Kinshasa, ils vont bâtir dans des villes, ils s'achètent de la terre partout. C'est pas normal. Donc moi je pense que nous devons apprendre à être sérieux. Bienvenue à parler du projet par rapport à l'agriculture, le projet qui venait d'être lancé il y a quelques jours. Vous savez, moi ça me surprend. On nous dit qu'on va moderniser l'agriculture. Et que le fonds, s'il vous plaît, le fonds doit venir des investisseurs. Curieusement, c'est le gouvernement congolais qui doit sortir de l'argent. Et pour la ferme d'Enselé, plus de 40 millions de dollars. Et maintenant, le gouvernement doit sortir plus de 85 millions de dollars pour financer.
Mais c'est bizarre, ça. Mais ces Sud-Africains apportent quoi? Tout qu'on nous dise. Et pourtant, sur les 25 millions de paysans congolais qu'on a, si on avait pris cette enveloppe de 85 millions de francs qu'on donne aux Sud-Africains, divisé ça par les 25 millions de Congolais qu'on a, qui sont paysans dans ces pays, vous comprenez combien aurait chaque Congolais pour pouvoir asseoir une entreprise agricole? Non, on est en train de rêver dans ces pays.
Alors, Victor Zouzi, le gouvernement, la bouche du ministre, vous n'avez dit, a estimé que la RDC ne pourra pas atteindre tous les objectifs du millénaire pour le développement en 2015. Selon vous, qu'est-ce que le gouvernement devrait faire pour atteindre ces objectifs-là?
Ben, il va les atteindre quand? En 2025, puisqu'en 2015, c'est demain, non? Et donc... comme nous avons, moi je prends, dans les conférences que j'ai fait un peu partout, je prends l'objectif 2025. J'ai dit en 2025, on aura un autre gouvernement. Et deux gouvernements d'ailleurs qui vont se succéder. Il y a le président Kabila qui ne va plus se représenter, même s'il y aura quelqu'un de la majorité présidentielle qui deviendra président, mais au moins il va tirer les leçons du gouvernement passé, des 10 ans ou 12 ans de Kabila. Et alors, celui qui viendra en tirant ces leçons-là, je crois qu'il va faire mieux. Mais sinon, je sais que c'est l'opposition peut-être qui prendra le pouvoir et ça sera deux gouvernements. Même si l'opposition prenait le pouvoir et que son mandat, le premier mandat, il est terminé en 2021, s'il aura mal géré comme le premier, eh bien celui-là encore, on va le mettre dehors.
Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour atteindre ces objectifs, Victor Ndouzi?
Si, je reviens objectif. Donc c'est pour vous dire que si nous apprenons à être sérieux, le gouvernement redistribue le revenu équitablement. Et si le gouvernement s'impose une discipline pour élaborer un véritable programme de développement, un véritable programme congolais, le programme des DCRP, ce n'est pas votre programme, ce n'est pas notre programme, c'est le même programme qui est imposé au Mali. Moi j'y vais, je vois, c'est le même programme qui est imposé au Bénin, c'est le même programme qui est imposé à Congo-Brazzaville. Ce n'est pas notre programme. Et on est dans la colonisation, ce n'est pas normal.
Et donc, pour vous, le gouvernement doit avoir son propre programme à lui pour pouvoir lutter contre la pauvreté.
Oui, avec le DCRP, ça sera difficile. Oui.
Avec le DCRP, ça sera difficile.
Non, mais ça sera difficile avec les DCRP. Parce que dans les DCRP, le gouvernement n'aura jamais de moyens. Parce que ces bailleurs-là, ces partenaires, ils donnent d'une main et ils retirent de l'autre. Toutes les conditionnalités qu'ils nous ont données par rapport à nos ressources naturelles, ils nous ont presque imposé, ils nous ont presque mis dans les systèmes des codes miniers, des codes forestiers. Qu'est-ce que ça rapporte aux Congolais? D'ailleurs, dans cette évaluation, le gouvernement lui-même a reconnu que le minerai n'apportait rien au trésor public, presque rien. La forêt n'apporte presque rien. Donc, ceux-là, ils nous ont imposé des conditionnalités qui font que
merci,
nous ne pouvons
Victor,
pas nous en sortir, nous devons brader nos ressources naturelles.
Merci Victor Ndouzi, bienvenue Marie Bakoumania, avec ce DCRP difficile d'atteindre ses objectifs.
Oui, les preuves sont là. Hein. Même le gouvernement lui-même le reconnaît. Il est difficile d'atteindre les objectifs si on ne modifie pas notre ligne de nos objectifs, si on ne modifie pas le mode opératoire pour atteindre le développement, si on ne modifie pas notre comportement pour aller vers l'émergence, pour aller vers le développement. Tout à l'heure, j'ai épinglé deux secteurs qui, à mon avis, hein, peuvent nous conduire à atteindre facilement
hein, les objectifs.
Oui, l'agriculture et l'environnement. Dans l'agriculture, c'est vrai, l'idée de Victor, c'est, on peut redistribuer des fonds à tous les agriculteurs, ça aura quel impact hein? Ils vont avoir des fonds, ils vont cultiver, comment est-ce qu'ils vont les évacuer hein? Ouais, comment est-ce qu'ils auront les intrants? Ça doit être quelque chose de réfléchi. Et pour moi, hein, la stratégie des parcs agro-industriels, pour moi, c'est une stratégie qui peut porter. Il suffirait cette stratégie à travers toutes les provinces, il faut même aller au niveau des districts, pourquoi pas. On peut atteindre les développements, on peut nourrir l'Afrique tout entière. Et là, on aura des revenus. Pour moi, le problème maintenant, c'est que les gens doivent avoir des revenus, se doter des revenus pour faire face aux obligations eux-mêmes. Hein, l'État qui distribue des gouttes de polio, comme on le fait actuellement, il ne faut plus rêver de cet État-là. Cet État-là n'existe plus. Hein, l'État, c'est quelqu'un qui crée des les conditions pour que les gens puissent travailler, puissent produire, puissent se doter des moyens. Hein. Et à ce moment-là, on aura une classe moyenne avec des revenus et une classe moyenne qui va soutenir la croissance. Et là, quand je parle également de l'environnement, ce n'est pas au hasard. Il y a des milliards de dollars en circulation à travers la planète. Il n'y a pas longtemps, c'était 100 milliards qui étaient en circulation. Nous en capturons combien? Or, aujourd'hui, avec l'assainissement assuré du secteur de l'environnement, la fraude qui avait élu domicile dans ce secteur est en train de partir. Merci. Mais aujourd'hui, qu'il y a le crédit carbone qui est en train de poindre à l'horizon, je pense qu'on peut, de ce côté-là, glaner ne fût-ce que 2, 3, 4, 5 milliards de dollars américains. Et à ce moment-là, on aura suffisamment de ressources du secteur de l'environnement, suffisamment de ressources parce que les gens auront du travail avec les emplois alternatifs rémunérés. À ce moment-là, on peut prétendre affronter les objectifs millénaires pour le développement. On peut prétendre affronter l'amélioration de la scolarisation. Parce que qu'on ne se trompe pas, l'école est toujours prise en charge par les parents. C'est nous, parents, qui prenons l'école en charge. Les soins médicaux, il n'y aura pas gratuité demain. Donc, ceux qui n'ont pas d'argent, ne plus que pour acheter la fiche, il n'aura pas accès aux soins médicaux. Je pense que si on veut réellement que nous nous développions, qu'on puisse atteindre les objectifs du millénaire, si on veut réellement donner de la valeur à ces documents, les DCRP, je pense qu'il faut trouver des stratégies pour doter les Congolais des moyens, doter les Congolais des moyens pour qu'ils puissent faire face à leurs exigences existentielles.
Marcel Kanda, il faut doter les Congolais des stratégies pour pouvoir lutter contre la pauvreté, pour pouvoir développer ce pays. Qu'est-ce que vous en pensez?
Je crois que ce que l'interlocuteur vient de soulever tout à l'heure est très, 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 très pertinent. Et d'ailleurs, je voudrais d'abord dire que la stratégie de parc agro-industriel, c'est une des stratégies que le gouvernement a mis en place justement pour atteindre les objectifs qui s'est assigné. Et ça, c'est une stratégie à louer. Et je ne vois pas pourquoi, si le gouvernement, quand vous fixez des objectifs pour atteindre un niveau de développement, il faut également comprendre qu'il faut financer le développement. Le développement ne tombe pas du ciel, ça se finance. Et c'est tout à fait normal si les partenaires ne peuvent pas mettre la main, ou disons, mordre à l'hameçon, que le gouvernement commence par montrer l'exemple depuis très longtemps. Le problème que nous avons dans notre pays, ce n'est pas un problème de plan de développement. Le problème, c'est comment financer ces plans de développement. Et ça, c'est un véritable problème. Il faut une articulation entre les stratégies de développement que nous montons et leur mise en œuvre. Et très souvent, quand nous faisons le diagnostic, nous nous rendons compte que le problème se pose au niveau de la mise en œuvre parce que nous avons le problème des financements. Et si aujourd'hui, le gouvernement mobilise des financements...
Est-ce que le gouvernement a réfléchi sur cette question?
Justement, quand le gouvernement mobilise des moyens pour mettre en œuvre sa stratégie, moi, je ne trouve pas d'inconvénient. Pourquoi on doit condamner ça? Ça, c'est... Le gouvernement met des infrastructures en place qui sont des moyens qui vont attirer des appâts, si vous voulez, attirer d'autres investisseurs à venir. Donc ça, c'est déjà une très bonne chose.
Alors, il nous reste au moins 2-3 minutes aussi, pour mettre fin à cette émission. Je vais vous demander de conclure, Monsieur Marcel Kanda.
En termes de conclusion, je pense qu'on était en train de parler de la revue. La revue, comme l'avons dit, c'est une évaluation de programmes et plans du gouvernement par rapport aux objectifs préalablement définis. Quand vous fixez des objectifs, vous avez mis en œuvre des actions et des programmes, à un certain moment, vous devez vous arrêter périodiquement, voir est-ce que nous sommes sur la trajectoire de nos objectifs. Et si nous n'y sommes pas, quels sont les problèmes que nous rencontrons? Que faire? Il y a plusieurs constats qui ont été faits par les différents intervenants. Entre autres, par exemple,
l'Afrique.
Ouais.
Je suis désolée, on n'a plus beaucoup de temps. Et donc, le gouvernement a fait son évaluation et va améliorer.
Et ça, ça nous permet d'apporter des ajustements, des mesures d'ajustement.
Merci, Marcel Kanda. Victor Zouzi, en guise de conclusion, un mot.
Je pense que c'est notre pays, nous devons l'aimer. Et notre pays regorge de beaucoup de potentialités. Ça fait la honte. Ça fait la honte d'être universitaire, d'être intellectuel, et d'être incapable de nourrir son enfant. Ça fait mal. Et on ne peut pas parler du développement de ce pays tel qu'on est en train de traiter l'éducation aujourd'hui. C'est malheureux. Et donc nous devons prendre conscience. Et le paysan
attendent du gouvernement réellement le sens des responsabilités.
Merci Victor Mbouzi, bienvenue Mariba Koumania.
Oui, il faut requalifier le Congolais, il faut le doter en moyens conséquents pour qu'il puisse faire face à ses obligations. Et le gouvernement a l'obligation justement de créer cet environnement. Et je pense que nous sommes sur la bonne voie. Et il suffirait seulement qu'on puisse valoriser le secteur agricole et le secteur de l'environnement.
Le dialogue entre Congolais, c'est fini pour ce soir. Merci à Guy Maté, Alain Rung, Samuel Kachak, sous la supervision de Pélé Kipela Mondo, qui m'ont aidé à préparer et réaliser pour vous cette émission. Merci à Paul Badianyama, qui est à la mise au nom de micro Kélin Kouté. Retrouvez cette émission sur notre site internet www.radioocapi.net. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.